Einstein et Michel Auriol. Michel Auriol, dont j'ai eu la chance d'être l'élève. Et je saisis cette occasion pour dire publiquement toute la gratitude que j'ai pour toi et la dette intellectuelle que j'ai à ton égard. C'est pour moi l'occasion de le dire publiquement.
Oui. Bien. Moi, j'aurais du mal à faire preuve de la même précision, puisque je suis en retraite depuis 10 ans, et donc je ne suis pas évidemment à même de rendre compte d'une recherche en cours. Toutes les recherches dont je peux faire état sont des recherches du passé. Mais enfin, je dirais quand même d'abord que il faut commencer par un hommage à celui qui a créé le type de recherche qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Pierre Bessaignet. Pierre Bessaignet venait de l'UNESCO, il avait travaillé en Inde et dans différents pays d'Asie, et c'est lui qui a fait valoir auprès de Charles Morazet la possibilité d'exploiter la nouvelle université de Nice pour y créer des recherches et des enseignements par rapport à des domaines où la France était à l'époque extrêmement en retard. Et donc, je crois que c'est un hommage normal de commencer par rappeler. Alors, l'envers, évidemment, c'est que Bessaignet n'était pas vraiment un chercheur. C'était un grand vulgarisateur, c'était un homme officiel, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des recherches de Pierre Bessaignet qui aient marqué notre histoire commune. Alors, à partir de là, moi j'ai profité beaucoup de sa protection pour pouvoir développer ce qui m'a intéressé et qui, heureusement, a la plupart du temps intéressé tous ceux qui se joignent à l'équipe progressivement, et dont certains sont restés éloignés de nous après coup. Et c'est là que, j'ai pensé que ce qui faisait défaut lourdement à la psychologie sociale française, c'était la théorie de l'appartenance. Qu'il y avait des quantités d'apprentissage, de la socialisation, de l'échange, etc. Mais disons que l'appartenance n'était pas considérée comme un domaine important, ce qui, effectivement, ça a été rappelé par Françoise, mettait la recherche française très en retard par rapport à la recherche américaine, canadienne ou britannique. Et donc, le fait, l'effort pour développer une théorie de l'appartenance a quand même, je pense, été, bien qu'elle ait rompu avec ce que Bessaignet avait commencé à faire, a été, dans l'ensemble, je crois, fructueuse et diversifiée, même si les terrains d'application de ces appartenances se sont trouvés après à l'itéric extrêmement variés. Disons que par rapport à la façon dont se développaient les sciences sociales en France, ça a comblé quand même une lacune qui est loin d'être comblée réellement, mais notamment le fait de considérer l'appartenance non pas comme une variable indépendante qui va de soi, mais considérer l'appartenance comme un processus. Et je pense que c'est là-dessus que l'ensemble des chercheurs de l'IDERIC ont apporté des contributions qui ont été appliquées sur les terrains les plus divers en France et à l'étranger, et en Afrique aussi beaucoup, et pour ce qui concerne les recherches que j'ai dirigées, finalement, le domaine de privilégié où j'ai essayé d'appliquer ces théories de l'appartenance, ça a été le Portugal, qu'il faut l'avouer, n'est pas... Peut-être a-t-on insuffisamment fait connaître ces recherches, peut-être ne les a-t-on pas assez exploitées, hein, mais je pense que il y a là quand même un acquis que prolongent les chercheurs actuels, les jeunes chercheurs, les chercheurs plus jeunes que moi, de l'INERIC, un apport qui est tout à fait essentiel, puisque il suffit de regarder les élections actuelles pour voir que la façon dont les Français appartiennent à la France s'avère d'une diversité affolante, à tel point que les candidats aux élections ne savent plus comment s'y prendre. Donc, alors je dirais que là, j'ai quand même été, parce que là j'en reviens quand même, je profite un peu de l'exemple de Françoise pour aussi utiliser un peu plus mon expérience personnelle, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été les contributions de Tachevel en Grande-Bretagne. Tachevel est un psychologue social, dans la catégorie universitaire, mais en fait, il a utilisé très largement son savoir en psychologie sociale pour exploiter ce que signifiait et comment évoluait, quelle était la dynamique liée aux appartenances. Et j'avoue que j'allais, à une époque, j'allais très régulièrement à Bristol, où il avait à l'époque son équipe. Et j'avoue que l'essentiel de ma formation sur les problèmes d'appartenance, je la dois à Henri Tachevel, qui malheureusement est mort très jeune. Et alors, qu'en dire à partir de là? C'est que l'IDERIC a pu devenir, aussi grâce à aux linguistes qui sont venus nous épauler comme Nicolai, mais l'IDERIC a pu devenir un peu une seule de matrice des théories en sciences humaines de ce que c'est que l'appartenance. Et comme c'était une lacune béante de la recherche française, comme ça a été rappelé tout à l'heure, je pense que la tâche est encore devant nous, mais qu'elle a permis de combler beaucoup de lacunes. Et l'une des... Je pense que là, l'étape qui a été pour moi absolument décisive, c'est le hasard a voulu que la recherche européenne décide de s'atteler à une étude du Portugal. Et pour moi, ça a été... j'y ai associé, je crois que on peut le trouver dans les publications actuelles qu'on a faites dans différents cadres, mais cette étude du Portugal a quand même rassemblé en fait une dizaine de chercheurs que j'ai pu diriger. Et l'intérêt considérable, c'est que à la fois c'était plus simple à bien des égards qu'ailleurs. Tout à l'heure, on a évoqué, la Françoise a évoqué des recherches de groupes minoritaires, ce qui est toujours d'un intérêt très grand. Les minorités sont beaucoup moins visibles au Portugal. Il y a des minorités linguistiques, enfin, bien qu'il y ait des minorités à la limite de l'Espagne, mais en gros, les diversités qu'on peut trouver et que nous avons tous trouvées dans les communautés portugaises sont beaucoup plus des communautés de dynamique individuelle et collective. C'est-à-dire c'est que les gens produisent beaucoup plus visiblement qu'ailleurs la façon dont ils vont se désigner. Et il est certain que par exemple, Bien sûr, il y a des facteurs qui jouent, comme la proximité de l'Espagne ou le fait d'appartenir ou non à une grande ville. Mais en gros, il y a une diversité dans la façon d'être portugais qui est un objet d'étude qui nous a considérablement servi. Et ce que je suis en train de développer en ce moment susciterait les protestations certainement de tas de gens qui disent « Mais non, les Portugais, c'est un groupe homogène, c'est une petite nation où tout le monde se ressemble. » Or, en fait, c'est précisément à cause de ces caractéristiques que nous avons pu mettre à cette occasion en évidence, sous diverses rubriques, la façon dont se diversifie, non pas simplement se diversifiant socialement, mais de se diversifie ethniquement, des gens qui ont tout en apparence pour être proches. Et je pense même que les recherches qu'on a développées à cette occasion auraient pu avoir une audience plus grande. C'est peut-être un peu mes lacunes, mais il est certain que je continue à considérer que l'apparence, enfin, on le voit encore actuellement avec le débat politique français, où personne ne met en question sérieusement la diversité des conditions d'appartenance. Tout se ramène à l'idéologie, tout se ramène à... Il y a quelques îlots indépendants, la Provence, l'Alsace, etc. Mais que les groupes sociaux produisent leur propre identité et que cette identité ne soit pas forcément comme purement et simplement résumée à l'identité nationale, je crois que c'est quelque chose qui reste un acquis qui est encore largement à explorer parce que, on le voit bien dans la campagne électorale actuelle, cette même élection franco-française est l'objet d'une diversité d'approches, de proclamations, de revendications, d'exclusion, de confusion, qui est inépuisable, hein, et sur lesquelles on s'aperçoit que le journalisme officiel ou radiodiffusé n'est pas spécialement bavard. Hein. Alors voilà ce que je veux dire. Bon, là, j'avais relevé les degrés de l'appartenance que j'ai pu constituer au Portugal. Je les prends même rapidement pour montrer comment, dans un pays en apparence caractérisé par l'unité radicale politique, il peut y avoir des échelons d'appartenance, des échelons de proximité très saillants. Là, par exemple, voilà les échelons que j'avais proposés à l'époque. L'affirmation de l'appartenance à la communauté linguistique ou économique. Ça, c'est le degré de ceux qui sont le plus portugais. Ensuite, il y a l'affirmation de la motivation à affirmer sa citoyenneté. Ça, c'est le deuxième échelon. Alors, si on n'a pas dans le premier échelon, on est en même temps, il y a a priori du deuxième. Hein, tous les échelons sont caractérisés par le fait qu'ils sont disposés comme englobants. Le troisième niveau, c'est la motivation à l'endogamie. L'appartenance est caractérisée assez souvent par la recherche du conjoint, et ça se maintient beaucoup plus d'ailleurs en situation d'exil. Le quatrième niveau, c'est l'appartenance au fait de rechercher à partager les territoires. Le cinquième, c'est qui est, et là où on voit l'écart auquel ces recherches conduisent par rapport à la science politique, c'est seulement à ce cinquième niveau qu'on voit apparaître comme impliqué au plus bas degré une particularité qui est la communauté politique. C'est-à-dire que, alors que même en France, on continue souvent à privilégier largement la communauté politique comme communauté dominante de définition des sujets sociaux. Or, on s'aperçoit que quand on fait des études assez fines sur la revendication d'appartenance, le marquage de l'appartenance, la politique vient en dernier. Alors, il y a enfin des gens qui peuvent se déclarer portugais sans aucun caractère probant, tout simplement un héritage. Et ensuite, il y avait 20% à l'époque, ce serait beaucoup plus aujourd'hui, de gens qui ne sont plus du tout portugais, qui sont nés portugais, qui ont grandi au milieu portugais, mais qui, vivant à l'étranger ou ayant des affinités professionnelles ou autres avec l'étranger, aboutissent à une répudier pratiquement dans la pratique sociale la revendication portugaise. Alors je voudrais souligner le fait que ce type de recherche, qui enfin, on trouverait des recherches qui nous ont inspirés, comme j'ai dit, chez les Américains et chez les Britanniques, mais ce type de recherche oblige à mettre en évidence des différences, des difficultés relationnelles, des innovations qui ne sont pas du tout reconnues dans le lexique habituel, hein, et qui donc permettent quelque chose qui reste malgré tout d'ordre psychosocial, de se faire reconnaître comme déterminant à l'insu de presque tout le monde. Et je terminerai en soulignant que ce type de recherche, à mon avis, reste embryonnaire. C'est-à-dire qu'on continue à voir, notamment dans les journalismes politiques, dans les émissions de radio, une espèce d'évidence nationale homogène qui masque toute une série de différences considérables et qui, en plus, pas seulement des différences, mais des capacités d'innovation et de création.